Interview.
Bonjour. Voilà, je suis Gilbert Girard. Je suis né le 29 janvier 1928 à Saint-Sauveur, à la maison, parce que tous les enfants naissaient à la maison de ce temps-là, jusqu'à dans les années 40, à peu près. Et puis, bon, à 20 ans, j'ai fait mon régiment en Allemagne. Et puis après, j'ai aidé à mon père dans les champs. On n'avait pas une ferme, on habitait au village, au petit village de Saint-Sauveur-en-Divois, qui est juste à côté de Saillant, entre Saillant et Cré, et vers la forêt dessous, voilà, où, mon petit village. De ce temps-là, on y était 40-50 habitants, maintenant on y est environ 60 et quelques, quoi. Ça va beaucoup augmenté. Alors bon, j'ai travaillé dans les champs et en 58, mon père est décédé, j'avais 30 ans et j'ai repris la ferme et je suis resté à Saint-Sauveur jusqu'à 62 ans. J'ai pris ma retraite à 61 ans. Quand j'ai commencé, mon père avait un cheval et deux vaches. Et puis après, il a vendu les vaches, le cheval, et on a acheté une paire de bœufs. Et on a toujours travaillé avec les bœufs, jusqu'au tracteur, bien entendu. On travaillait la terre, on fauchait le foin, on ramassait le foin, etc. Quoi. On labourait, on herçait, on semait le blé, l'avoine, l'orge, etc. Voilà.
Et vous aviez combien d'hectares à cette époque ?
Oh, une dizaine. À Saint-Sauveur, à part deux qui étaient plus importantes, on avait 10, 12 hectares. Voilà, alors comme culture, on faisait un peu de tout. On avait un peu de vigne, un rouge, un clairette, on faisait des céréales, du foin parce qu'on avait un troupeau, on avait des bœufs. J'ai labouré avec les bœufs pendant longtemps. Voilà. Et puis on avait des poules, des lapins, un cochon, des chèvres, des betteraves. On faisait beaucoup de betteraves pour les cochons. Et puis un grand jardin avec tous les légumes, quoi. On récoltait du blé. On le portait à Cré à un moulin qui nous donnait pour 10 kilos de blé. Il nous disait donner par exemple, je ne sais pas, 1 kilo de farine ou voilà. Et que ça a donné beaucoup de services pendant la guerre.
Vous aviez une voiture ou...
Ah ben, on a commencé au vélo. Et puis après, j'ai eu une Terreau, 125 Terreau noire. C'était les petites motos. Tous les jeunes avaient presque des Terreau d'autres marques. Mais enfin.
Vous emmeniez votre farine sur votre moto ?
Et oui. Même sur le vélo jusqu'à Cré. Mais non, je ne faisais que 10 kilos à la fois, quoi. On allait à Cré presque toutes les semaines, tous les 15 jours. Mais avec 10 kilos, on en faisait du pain ou des gâteaux. Et on vivait vraiment avec ce qu'on avait sur la ferme. On avait des pommes de terre, on avait le jardin, on avait tout, quoi. Comme dans toutes les fermes à cette époque-là.
Des petites fermes, un peu autosuffisantes.
Oui, oui. Et on achetait que le, comme on disait, le sel et le poivre, quoi. Bon, alors pour les vêtements, eh ben j'avais une tante qui filait la laine. Et on arrivait à faire des pulls, des chaussettes, etc. Et puis il passait des gens de camion qui nous vendaient des pantalons, etc. Deux fois par an, une fois à l'automne et une fois au printemps.
Oui, apparemment, les marchés ambulants, ça avait l'air d'être très important.
Ah oui, oui, très important, oui, oui.
Donc il y avait quel type de marchand du boulanger?
Mais il y avait le boulanger. Et puis, on l'appelait le cocotier, toutes les semaines. Ils ramassaient les œufs, parce qu'on en avait souvent à vendre. Ils achetaient les lapins. Et avec cet argent, on sortait presque pas de l'argent, on achetait de l'huile, du vinaigre, des pâtes, du riz, du sucre, de ceci, de cela, des bougies.
Et du pétrole.
Ah, il ne vendait pas le pétrole, lui. Je ne sais pas, parce qu'on l'achetait, ça y a le pétrole. Parce que ça, il ne pouvait pas vendre du pétrole avec l'alimentation. Et puis, un qui vendait des vêtements. Deux qui vendaient des vêtements.
Et pour les chaussures, comment vous faisiez?
Ah ben pour les chaussures, ben on achetait à Saillant. Mais on avait des semelles en bois. Quand j'ai passé le certificat, après le certificat, ma mère avait acheté des chaussures, mais la semelle était en bois. Et alors dessous, on mettait des petits clous. Mon père mettait des petits clous pour pas que le bois s'use tout de suite. Puis on marchait comme ça. Et ma grand-mère maternelle, qui, à la fin de sa vie, elle était dans l'Ardèche, elle avait des esclos, des chaussures tout en bois, vous savez, des sabots. J'en avais une paire, moi, pour l'hiver.
Et on met de la paille dedans?
Non, mais on avait des chaussettes en laine. Hein. Non, on ne mettait pas de la paille.
Et les chaussettes?
On les tricotait aussi.
Ah, votre mère?
Oui, ou ma mère, ou ma grand-mère, quoi. Et on achetait nos vêtements comme ça, sur place, quoi. Et qu'on pouvait des fois les essayer. Oui. Et les chaussures, ben, on n'avait que des gros souliers, parce qu'on en avait quand même pour le dimanche. Mais on avait beaucoup des chaussures avec des semelles en bois. On n'avait pas des chaussures avec des semelles en cuir. On avait des chaussures avec des semelles en bois. Ah, c'était pas... On faisait du bruit quand on marchait. Voilà.
Ça a duré longtemps?
Oui, jusqu'à, je sais pas, en 46 ou 7. Quoi.
Ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez commencé votre carrière d'agriculteur à l'ancienne. Hein,
Et puis on s'est modernisé petit à petit.
Et puis vous êtes modernisé. Alors est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu cette arrivée progressive du changement dans votre vie? Et dans la vie collective aussi, qu'est-ce que ça a eu comme impact?
Ben, je vais vous dire, à partir de 52 ou 55, je ne me rappelle plus, on a acheté un tracteur à 7. Alors là, on labourait, à part les bœufs, pas ce terrain, parce qu'il est comme ça. Mais tout ce qui pouvait se labourer, on labourait avec le tracteur. On fauchait les foins, et on le râtelait, etc. Le bois, on est allé toujours avec les bœufs, avec les bêtes, parce que c'est en vente comme ça. Non, mais bon, ils nous rendaient bien service. Mais pendant la guerre, il n'y avait pas de fioul. Alors, pour battre le blé, c'était un tracteur qui venait de créer, là, et qui était au gazogène, quoi.
Et là, comment ça marchait, ça? C'est au charbon de bois, quoi. Hein?
Au charbon de bois, oui.
Mais donc les premiers tracteurs, ils sont arrivés à quelle époque à votre avis?
Oh, mais il y en a qui sont arrivés dans le Divois, des vieux tracteurs qui sortent des fois de temps en temps. Je sais pas moi, en 30 par là. Ouais. C'était des lances aussi. Là. Et je crois qu'il n'y avait qu'un cylindre. Pof, 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 pof.
Quel autre changement était notable à cette époque?
C'est surtout... mécanique, quoi, toute la mécanique est arrivée. Et puis après, alors, on coupait le blé, on faisait des bottes, on les mettait en tas et on battait. Et alors on a fait avec un voisin, qui était plus âgé que moi aussi, la moissonneuse-batteuse, comme celle qu'on voit maintenant, sauf qu'il y avait des grandes coupes comme ça, ça coupait que 1,50 m les premières.
Il fallait passer souvent, quoi.
Eh bien oui, on tournait beaucoup plus, tandis que maintenant, après, elles étaient à 3 mètres, maintenant, paraît-il, il y en a 6, je ne sais pas combien, 10 mètres, là, quand on le voit sur la télé. Ça coupe le blé, ça le bat, et il y a une personne qui met des sacs, et on remplit les sacs, et voilà.
Aussi au niveau des produits, des pesticides, on parle beaucoup de ça en ce moment, hein. Mais à l'époque, comment vous faisiez pour amender votre terre?
On avait beaucoup de fumier. Alors sur le foin, au mois de mars, par là, on mettait du super, c'est du phosphate. Et puis pour le blé ou la vigne, on mettait du super, comment on appelait ça, avec de l'azote et de la potasse. Et la vigne, on traitait au cuivre et au soufre, la bouillie bordelaise, comme on appelait ça.
Comme maintenant, quoi.
Oui, comme maintenant, font les...
Mais à l'époque, c'est maintenant le rôle des organismes qui aident les agriculteurs à prendre des décisions, qui les conseillent, ou des ingénieurs agronomes. Est-ce que vous étiez un petit peu aiguillé vers le progrès à cette époque?
Oui, un petit peu, oui. Oui.
Donc il y avait des gens qui venaient vous conseiller de vous mécaniser ou d'utiliser des produits, par exemple.
Alors, on a commencé à désherber surtout la vigne, parce qu'on a pioché la vigne, comme ceux qui font... En bio maintenant, là. Parce qu'en 70, la cave coopérative disait aux vignerons, il faut planter de la vigne parce qu'on en a passé pour faire des stocks. Alors il y a un monsieur qui est venu à Saint-Sauveur, il dit, mais il y aurait des terrains à planter de la vigne. Alors il a commencé à demander si on pouvait... louer nos terres pour planter de la vigne. Et à 14 propriétaires, oui, 12, 14, la cave coopérative a loué du terrain. Et ils en ont planté 22 hectares la même année. Alors la vigne n'a le droit de planter que 5000 pieds à l'hectare pour avoir l'appellation Clairette de Die. C'était que pour la Clairette. Et là, ils ne se sont pas occupés parce qu'il y en avait qui avaient des parcelles comme ça, vous savez. Ils ont fait des grandes parcelles. Ils se sont plus occupés des limites et c'est pour ça qu'il y a des grandes parcelles. Alors, les premières années, il a fallu tout piocher, comme on faisait nous dans le temps. Et puis après, on a mis du désherbant. Ils en mettent toujours un peu. Voilà.
Vous m'avez dit que vous faisiez votre vin. En plus de livraison à la Clairette, vous faisiez un petit picrate rouge.
Oui.
Alors vous faisiez combien de litres?
20 ou 25 hectolitres. Alors de 2000 à 2500 litres. Quoi.
Et vous livriez donc?
À Cré. Il venait chercher le vin.
C'était un cafetier?
Un cafetier, oui. C'était pas une quatrelle de ce temps-là, mais enfin, c'était un petit fourgon, quoi. Il mettait trois petits tonneaux de 50 litres. Chaque fois, il en a apporté 150 litres. Il ne pouvait pas en mettre plus. Alors, bon, comme on avait des céréales, on avait une batteuse avant 39, et on battait le blé. Et après, on achetait un petit tracteur à Farbal en 52 pour remplacer un peu les bœufs et les chevaux. Et puis, en 60, on a fait avec les moissonneuses batteuses. Voilà, on a abandonné notre petite batteuse. À part ça, quoi vous dire? Quand on faisait les vendanges, quand on faisait notre vin nous-mêmes, qu'on allait faire l'agnole à Saya, voilà. Et puis, l'hiver, eh bien, on réparait un peu... ce qu'on avait, comment dire, notre matériel, on coupait du bois, bien entendu, on se chauffait au bois, on faisait des paniers parce qu'on n'avait pas des soins en plastique pour vendanger, on faisait nos balais, même. On faisait un petit tout nous-mêmes.
Et la coopération entre agriculteurs, parce qu'il n'y avait plus d'agriculteurs à l'époque.
Oui, on était presque tous agriculteurs, quoi. Comme je vous dis, à part l'instituteur et le curé, à part ça, on était tous agriculteurs. On se donnait beaucoup des coups de main, quoi, on disait. Pour les vendanges, pour les foins, pour les battages, parce qu'à la, Pour battre le blé, il fallait être une douzaine. Il y en a qui envoyaient les gerbes, et puis il y en a d'autres qui récupéraient le blé, la paille, etc. Voilà. Et puis alors, tous les hivers, on tuait le cochon. Ça, c'était un peu la fête. À ton voisin. Et puis, voilà. Et puis, au printemps, comme on avait des chèvres, on tuait souvent un chevreau. Et comme on n'avait pas de congélateur de ce temps-là, eh bien, on se le partageait. Alors, une fois, c'était le voisin qui en donnait une moitié, une autre fois, c'était, etc. Après, alors, j'ai acheté un petit tracteur. Parce que celui qu'on avait en société, il avait de l'âge. Alors, je ne sais pas en quelle année je l'ai acheté, en 70.
D'abord, les gens ont acheté des tracteurs en commun, et puis après, vers la fin, chacun avait son tracteur, c'est ça?
Oui, voilà, voilà.
C'est ça l'individualisme, oui, chacun son, oui, se oui, débrouille. Oui, oui. Et ne compte plus sur son voisin, d'où oui, moins de relations. Oui. Et dans votre vie tous les jours, alors, qu'est-ce qui était déterminant comme, entre guillemets, progrès, ou en tout cas, changement? Vous m'avez parlé, par exemple, de l'électrification, ça a dû être quelque chose, ça.
Oui, ah ben oui, oui. Et on a eu, la même année, on a eu l'eau sur l'évier, quoi. Et l'électricité. Et le conseiller général de Saillant, que ma mère connaissait bien, dit, qu'est-ce que vous avez vu, l'électricité ou l'eau? Ma mère a dit, ben c'est l'eau, parce qu'il est sur l'évier. J'ai qu'à tourner le robinet. Mais bon, on n'avait pas acheté la machine à laver tout de suite. Le frigo, on ne l'a pas acheté tout de suite non plus. Ma voiture, je l'ai achetée à 30 ans. Là.
Donc ça, c'était pratique. Vous pouviez mettre, comme la réclame de la Deux-Faux, un sac de pommes de terre, etc.
Oui. Et vous... oui, quand on allait à Cré ou n'importe, on a enlevé le siège et ça servait de camionnette, si vous voulez.
Donc vous alliez porter votre farine au grand moulin de Cré?
Non, mais, je vous dis, la farine, c'était pas dans la guerre. Après, on achetait le père Saillant. Il y a le boulanger qui passait toutes les semaines, plus de fois par semaine, il passait le boulanger. Avec un cheval.
Avec un cheval?
Et oui, et pas dans la guerre. Oui, oui. Il avait une grande remorque, il faisait trois communes, comme ça.
Saint-Sauveur, Aubenasson et...
Eh bien, il partait de Saillant, et toutes les fermes jusqu'à Saint-Sauveur, Aubenasson. Parce que pendant la guerre, on avait les cartes.
Carte d'alimentation.
Carte d'alimentation, on avait 500 grammes de pain par jour. Et on les mangeait. Et quand je suis parti à l'armée en 48, je suis né en 28, je suis parti en 48, au mois de novembre, je suis parti avec la carte de pain. On avait encore les cartes. Parce qu'il y en a qui disent, oh, ben, en 45, ça y est, ah, ben non. Il n'y avait rien à manger, c'était pareil. Hein. Et quand je suis revenu en 49, il n'y avait plus de cartes. D'alimentation, alors bon, il y avait pour l'huile, il y avait pour le pain, il y avait le sucre, il y avait le café, etc. Quoi.
Mais vous n'avez pas souffert de la faim pendant la guerre?
Non, pour essayer, non. Parce qu'on avait des œufs déjà. Et on avait des œufs. On tuait un lapin, ou n'importe. Au printemps, les chèvres faisaient des chevreaux. Alors on tuait un chevreau et on n'avait pas de congèle. Alors, avec un voisin, on se partageait le chevreau. Puis quand lui l'a tué, il donnait. Voilà.
Donc, et puis après, vous pouviez faire pousser du topinambour?
Truc d'or. S'il y a un voisin qui avait un peu des topinambours, non, mais gros, on avait suffisamment des pommes de terre.
C'est dans la ville qu'ils ont souffert, sans doute, oui, de oui, la disette oui, que oui, dans les campagnes.
Oui, oui. Et bon, on avait des chèvres, on avait du fromage. Ce qui nous manquait le plus, c'est le pain. On vendait un peu de blé, on vendait un peu du vin au cafetier de Cré. Alors, du vin, du blé, qu'est-ce qu'on vendait? Des lapins et surtout des agneaux, quoi. Les agneaux, on faisait l'agneau de lait à 35 kilos. Et ça, c'est un bon rapport, le troupeau. Mais il fallait faire des bons agneaux. Parce que mon boucher... Alors c'était des personnes qui passaient tous les 15 jours. Ils avaient un fourgon, ils achetaient les agneaux, quoi. Alors si des fois il y en avait un qui était un peu moins gras, il le payait un peu moins. Alors je disais, ah, mais pourquoi ? Il me dit, parce que la première qualité, ça va aller sur la Côte d'Azur. Mais celui-là, il va aller sur Lyon, celui qui est moins bon. Je dis, si je l'envoie sur la Côte d'Azur, il est refusé. Alors les Lyonnais devaient manger de la viande un peu moins bonne. Pas de première qualité de ce temps-là. Hein. Oui. Alors aussi pendant la guerre, bon, c'était on n'avait pas beaucoup de pain puisqu'on avait des cartes. Alors on allait à Cré, donc il y avait un moulin, et on portait sur notre vélo 10 kilos de blé, et on nous donnait, je crois, 7 kilos de farine. Et ça nous permettait de faire un peu des gâteaux, un peu de pain, etc. quoi. Et c'était pas la grande forme, là, pour revenir avec notre... Parce que normalement, on n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit d'aller faire de moudre et de porter de la farine.
Et pourquoi ?
Parce que c'était la guerre, c'était les restrictions. C'était le... Parce qu'alors, bon, aussi, alors, on était imposé. On avait, par exemple, 3 hectares de blé. Le rendement devait être de tant. Et on devait donner tant de kilos de blé aux Allemands. Et les pommes de terre, c'est pareil. Les pommes de terre, c'était M. Dedy qui venait. Alors, il comptait les raies, il comptait les pierres, et après, on en a arraché 20 pieds. Il est pesé. Et on devait en donner tant de kilos, on appelait ça le ravitaillement. On ne disait pas les Allemands. On disait ça, on devait donner ça, le ravitaillement. Et c'est pareil aussi pour l'alcool. Comme... on faisait notre vin et qu'on allait distiller la grappe à Saillant, on devait donner tant de litres d'eau de vie, d'alcool, à 50 degrés, au ravitaillement. Voilà.
Donc dans ces époques, vous me dites alors, peu de revenus, peu de divertissements, à part des petites fêtes villageoises et des jeux de cartes, etc. Oui. Par rapport à par exemple, à la télé. J'avais rencontré un senior de votre âge qui habite à Barnave et qui m'avait dit que à partir du moment où la télé est arrivée dans les foyers, les gens se sont moins parlé. Est-ce que vous pouvez le...
Ah ben oui, puis c'est toujours pareil. Hein. Ça peut changer, ça. Mais m'a dit, hein, parce que j'avais mon oncle et ma tante qui étaient rue des Quatre Cantons. Et bien, tous les soirs, les gens, ils sortaient dans la rue, ils discutaient, chacun, là, comme ça. Pourtant, ils avaient un peu de la télé, mais ils aimaient bien se voir le soir, comme ça, au frais, l'été, quoi.
L'été. Et ça a disparu avec la...
Alors, il a dit, vous n'auriez plus d'or.
Alors, je ne veux pas sombrer dans le mythe de l'âge d'or, d'une époque perdue qui était plus chaleureuse, mais... Est-ce que vous diriez que vos temps de jeunesse, dans une société rurale, il y avait plus de valeurs de solidarité, de partage et, relations humaines ?
Oui. On s'entendait beaucoup mieux.
Et vous êtes sûr que ce n'est pas nostalgie de votre jeunesse ?
Si, un petit peu.
Mais vous pensez quand même que les gens, ils se parlaient plus que jeunes ?
Oui, bien sûr. On se rendait beaucoup plus service. On discutait plus aussi.
Voilà. Et vous en souffrez, là, présentement ?
Un petit peu, mais enfin bon. Et puis dans mon village, il n'y a bientôt plus des personnes comme... Alors moi, je suis le doyen. Après, c'est mon frère. Mais son fils est à Perpignan, c'est mon neveu. Moi, j'ai pas d'enfant. Et les marins aussi, la famille marin, il y en a encore deux qui sont à Saint-Sauveur. Mais des anciennes, la famille Arbault, ils ont trois maisons de leurs parents, mais ils n'habitent pas là. Des anciens, dans 10 ans, il va rester à Saint-Sauveur 4-5 familles, pas plus. Peut-être pas.
Donc il y a eu un grand remplacement là.
Ah oui, oui.
Les neveux, puisque vous n'avez pas eu d'enfants, il n'y a personne qui a repris la relève sur les terres familiales, alors?
Non, non. On peut remonter jusqu'à 1600. Il y a des Girard à Saint-Sauveur. Et nous sommes avec mon frère, les deux derniers héritiers. Moi, j'en ai point, mon frère n'a qu'un frère. Et après les Girard à Saint-Sauveur, il n'y aura plus de Girard.
Grâce à l'école peut-être, mais est-ce que vous aviez des liens avec les villages avoisinants?
Oui, oui, avec Aubenasson, qui est un petit, une commune aussi de 50-60 habitants.
Mais sinon, si on va un peu plus
nous,
loin...
Nous, on était deux petites communes, là. Vous aviez la grande commune de Saillant. Nous, il y avait Saint-Sauveur, qui partait de la Drôme, et qui montait jusqu'à la forêt de Soux. Puis Aubenasson, qui faisait une bande aussi, jusqu'à la forêt de Soux. Puis après, il y a Pigoreau-Laclastre, qui est important. Qui avait un château, qui a toujours un château, rénové.
Mais par exemple, si on va un peu plus loin, Barsac, Aurel, est-ce que vous connaissez du monde?
Ah ben bien sûr.
Et comment vous...
Moi, j'aimais bien faire les fêtes, et je connaissais tout le monde. Et jusqu'à, oui, Aurel, Barsac, Vercheny, pas plus haut. Ponté, on venait pour tout ça. Et puis alors, tous les villages d'en bas, là-bas. Quoi, Oust, Suze, Beaufort, etc. Parce que, comme je vous dis, au début, j'ai appris à tuer les cochons. C'est mon oncle qui habitait vers Ausson, qui m'avait appris, il m'a dit, je ne vais pas aller toujours te tuer ton cochon, il faut que tu tues. Le. Puis j'ai commencé à tuer les cochons des voisins. Et puis, j'ai tué une vingtaine toutes les années, quoi. Saint-Sauveur, Aubenasson, par là. Puis au printemps, comme j'avais planté des noyers, mais on plantait des noyers qui n'étaient pas greffés de ce temps-là. Mais on plantait des noyers, on laissait pousser, qui viennent comme ça, quoi, à peu près, à 2 mètres de haut, et on les greffait. Alors j'avais pris des cours à craie pour greffer les noyers, puis j'ai commencé à greffer les biens. Puis... Alors au printemps, je greffais des noyers, quoi. Le samedi ou le dimanche, que j'avais pas trop de boulot. Alors, j'en ai greffé beaucoup à Aurel, à Espenel, voilà. On arrivait à tous se connaître. On se connaissait, premièrement, au concours de Belote, on faisait les concours de Belote aussi, des communes aux alentours, puis après les fêtes, puis etc. Et puis, comment on livrait tous à la coopérative de Dion, on connaissait pas mal des vignerons de Dion aussi, quoi. Nous, on était un petit village, une petite commune qu'on s'entendait très bien entre voisins et agriculteurs.
On sait qu'il y avait beaucoup plus d'agriculteurs à cette époque-ci.
Ah oui, 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 oui.
Vous étiez combien sur la commune de Saint-Sauveur?
8 à 10, non, 8 à Saint-Sauveur, 9, 10, 11, 12, 13, une quinzaine.
C'est pas mal pour un village de 60 personnes.
Oui.
Maintenant,
on... Mais tout le monde était agriculteur, hein. À part l'instituteur ou l'institutrice et le curé. Bien entendu, il y avait une petite école. Il y avait une petite école où on y était 10, 12 des fois. Il y avait un curé qui avait une voiture à cette époque-là, avant 39, ce qui était rare. Et ce curé, il était un peu spécial. Il disait la messe, bien entendu, hein, Saint-Sauveur et la petite commune à Aubenasson. Il était chasseur. Et il chassait avec les gens, le perdreau et le lièvre. Et puis, il était aussi horloger. Il réparait parce qu'on n'avait pas beaucoup de montres, des grandes horloges, etc. Voilà. Et puis bon, il y avait un instituteur, plutôt une institutrice, qui restait 17 ans. J'étais toujours allé à l'école avec la même. Voilà, notre petit village.
De nos jours, la Drôme, qui est beaucoup plus propre qu'il y a une vingtaine d'années, accueille des tombereaux de touristes et autres divois qui viennent se baigner. Est-ce que ça existait de votre temps ?
Non.
Les gens ne se baignaient pas dans la Drôme ?
Si. C'est tous ceux qui étaient au bord de Drôme, quoi.
Mais ceux qui étaient...
Peut-être moins que maintenant. Et nous, on était à 2 km de la Drôme. Il fallait remonter à pied après. Pousser le vélo. Et puis bon, c'était comme ça, quoi. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est qu'on n'avait pas de vacances, puisqu'on avait des bêtes n'importe. Les bêtes mangeaient tous les jours.
Pendant des dizaines d'années, vous n'êtes jamais parti de votre commune.
Oh non. Et non, il y a toujours le troupeau et toutes les bêtes. Non, à part le samedi soir ou le dimanche. Si, des fois, 8 jours, quoi. Parce que la cave coopérative faisait toujours des sorties. Mais bon, il fallait que le voisin vienne s'occuper surtout des bœufs, quoi, ou des bêtes, quoi. Ah non, mais il n'y avait pas les 4 semaines de congé payé.
Et alors, vous me parlez du samedi soir. Qu'est-ce qui se passait le samedi soir, là ?
Le samedi soir, il y avait des concours de belote l'hiver. Il y avait des concours de belote, et puis l'été, il y avait des vogues, des balles. J'avais bien dansé. Je faisais toutes les fêtes, là, avec les gens d'Espenel et d'Aurel, là. Et on se réunissait, on faisait toutes les balles, et puis l'hiver, on faisait un peu les concours de belote.
Ça, c'est à Saint-Sauveur. Il n'y avait pas de bar, quand même, là-bas, si ?
Si, il y avait un petit bar.
Vous y retrouviez le soir, ou ?
Non, plutôt le dimanche. Alors, c'était Mademoiselle Rosa. Elle avait la cabine téléphonique. Vous savez, dans le temps, c'était des grandes cabines téléphoniques. On se fermait dedans et on téléphonait. Et on faisait... Il fallait appeler Crépin, je crois. Mais... Et puis là, on donnait le numéro. Alors, elle avait la cabine téléphonique. Et puis, elle avait une petite épicerie. C'était les magasins de la tour qui lui fournissait toute l'épicerie. Et puis elle faisait un petit bistrot, le samedi ou le dimanche après la messe. On allait faire la belote pendant que les femmes préparaient le repas. Et bien, il n'y avait que des boissons non alcoolisées. Voilà. Et puis le dimanche après-midi, on allait faire la belote aussi chez elle.
Quel autre divertissement vous aviez à cette époque, à part la...
Mais on n'avait pas la télé, puisqu'on n'avait pas l'électricité. Mais les gens, le soir, ils sortaient devant leur maison avec leurs chaises, et puis les voisins étaient de l'autre côté, ils discutaient. Ils n'étaient pas devant leur télé. Et puis bon, ils avaient le lavoir. Toutes les femmes allaient laver leur linge, et ça discutait. L'électricité, on l'a eu qu'en 51. Comme l'eau sur l'évier.
Avant, c'était le puits.
Non, mais l'eau venait comme ça, là.
À les sources.
D'une source, mais avec des petits tuyaux, sans pression, quoi. Il y avait un grand lavoir où les femmes allaient laver, et puis à deux endroits, il y avait que l'eau coulait 24 heures sur 24, mais tout petit, quoi.
Quels autres divertissements, alors ? Puisqu'il n'y avait pas la télé, il y avait les concours de belote.
Alors, comme maintenant, dans toutes les communes, on appelle ça la vogue. Alors nous, on avait commencé par faire un concours de belote, pour 4 sous. Et puis après, on avait fait la vogue. Alors, la vogue, mais à ce moment-là, comme orchestre, il y avait un accordéon et une batterie, ils étaient que deux. Et on dansait, et il y avait des boissons, voilà. Et on faisait un petit repas. Et puis alors, bon, c'est ça, petit à petit, on s'est agrandi au point de vue repas. On a eu fait, cette année, ils en ont fait 400, mais il pleuvait cette année, 430. Et on fait environ 500 repas pour une petite commune de 60 habitants. Et on est arrivé à 600, 650. Et puis, alors, entre le concours de Belote, il y avait le feu de Saint-Jean. On se réunissait quelques-uns, on faisait ce feu de Saint-Jean, chacun portait sa bouteille, et puis c'est... Voilà. Et puis on chantait les mets. Au 1er mai, on chantait les mets. Alors c'était les jeunes qui passaient de ferme à ferme, avec un panier. On chantait au joli mois de mai, que tu es joli, que tu es charmant, etc. Et les gens nous donnaient des œufs, en général. Et le dimanche d'après, on faisait des beugnes. Et on a invité tous ceux qui nous avaient donné des œufs. Et là aussi, on dansait un petit peu. Voilà. Ça durait longtemps, ça. Comme j'étais célibataire, et qu'ils me disaient, oh, Gilbert, il vient, il porte les œufs. Il porte le panier avec les œufs. Parce qu'on nous donnait des œufs, puis on nous offrait toujours une boisson. Alors, il y en a qui buvaient, il y en a qui buvaient, n'importe. Souvent, dans la nuit, c'était l'eau de vie, hein, c'était la nuit. Alors. Moi, s'il y avait un pot de fleurs, je le vidais dans le pot de fleurs.
Vous aimez pas trop bien l'agneau, là ?
Non, et puis bon, il fallait tenir toute la nuit, puis porter les œufs.
Voilà. Comment vous vous éclairiez le soir ?
Alors, très longtemps avec le pétrole, avec des lampes à pétrole et des bougies. Et puis alors, pendant la guerre, il n'y avait plus de pétrole. Alors, à l'acétylène, au carbure, on achetait des pierres de carbure qu'on mettait dans la lampe d'acétylène. Ça s'éclairait plus que le pétrole, ça faisait une jolie flamme blanche. Ça sentait des fois un peu aussi, quoi. Le pétrole, ça sentait, le carbure, des fois.
Bien, mais monsieur Girard, on va conclure notre entretien. Pour terminer, un dernier petit souvenir.
Qu'est-ce que vous avez dit ? Les réunions de famille, les fêtes que je vous ai dit, là, puis voilà.
Bon. Oui, oui. Bien, mais monsieur Girard, merci pour votre témoignage. Et je vous souhaite une bonne continuation.
Oui, oui. Interview.